Vous écoutez RTL. RTL,
Maison, Jardin, Cuisine, Brocante,
avec Philippe Corbet.
Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, nous continuons ce matin notre balade dans les Alpes avec Laetitia et Sébastien. Bonjour les amis.
Bonjour. Salut Philippe.
Alors ce matin avec vous Laetitia, on va évoquer la beauté des chalets, évidente quand on se balade dans les Alpes. Et vous voulez évoquer Laetitia, un type de chalet assez particulier qu'on appelle les masos.
Ce sont des mini chalets, mais vraiment mini, hein, toujours construits à proximité d'une ferme. Ils font environ 3,50 m sur 3,50 m. Ils servaient de grenier, voire même de coffre-fort. Entièrement en bois, constitué de deux étages, on accédait au deuxième par un escalier extérieur.
Pourquoi dites-vous coffre-fort ?
Ben parce que les montagnards, ils entreposaient leurs trésors à l'intérieur, leurs vêtements du dimanche, leurs papiers importants à l'étage, et au rez-de-chaussée, eh bien, ça servait de garde-manger.
Ah, les fromages.
Il y avait quand même une vraie raison, hein, c'est que si le chalet principal prenait feu, vu qu'on se chauffait au feu de bois, c'était quand même une probabilité forte, eh bien, le maso, situé un peu plus à l'écart, était préservé.
C'est vraiment un chalet de poche, hein ?
Fabriqué en madrier de bois. La particularité, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de clous, excepté pour le toit et pour les planchers. Bah oui, sinon, les planches étaient rainurées et elles s'emboîtaient, ce qui rendait le maso démontable. Évidemment, aujourd'hui, les masos ne sont plus utilisés comme grenier. Et quand on a la chance d'en avoir un, eh ben, on le transforme en chalet lilliputien de vacances.
Alors, vous en avez trouvé un à Samoins, en Haute-Savoie.
Eh oui, Sabine et Philippe, les pharmaciens du village, ont hérité de leur grand-oncle Émile d'un maso datant de 1850 environ. Il est situé au pied des pistes, à 500 mètres du village. C'est un maso qu'ils ont agrandi pour rajouter une cuisine et une salle de bain, ainsi que des fenêtres qui viennent encadrer les montagnes.
Ah, pourquoi il n'y avait pas de fenêtres dans les masos ?
Ah bah non, il fallait limiter les entrées, hein, pour pas que les animaux puissent y accéder. Il y avait juste deux grosses portes, une en bas, une en haut, avec un cache sur la serrure pour éviter que les rongeurs ne viennent grignoter les céréales. Et puis alors une clé très très grosse, celle du maso de Samoins, elle fait 30 cm.
Ah oui, quand même.
Sabine et Philippe ont préservé la façade de l'entrée qui reste typique avec sa grosse porte. Ils ont aussi fait sabler le bois extérieur qui était très noir. Est-ce que vous savez pourquoi les bois des chalets sont souvent très très foncés ?
Eh bien non.
Eh ben parce que pour les protéger, les paysans badigeonnaient les façades avec leur vieille huile de vidange.
Mais non, mais pourquoi faire ?
C'est vrai, c'est incroyable.
Ça noircit ?
L'huile de vidange, ça noircissait le bois, mais ça le protégeait. Voilà. Après un bon sablage, là, le maso d'Émile a retrouvé toute la noblesse du bois d'origine.
C'est bien ça. Mais dites, on peut vraiment faire de la déco dans un espace aussi minuscule ?
Aujourd'hui, le maso fait une trentaine de mètres carrés.
C'est que dalle, oui.
Et il est vraiment cosy, avec des rideaux en feutre de chez Arpin. Ça, c'est le must du must. Mais si, je vous avais déjà parlé de cette filature qui, depuis 1817, retourne à la fourche la laine des moutons des alpages pour la transformer au cours de 24 étapes. C'est juste magnifique. Toute une aventure. Autre petite idée déco, sur les murs, une paire de bâtons en ski ancien, trouvés dans une broque du village, des bâtons enfants avec rondelles de bois et dragonnes en vieux cuir, j'adore. Puis il y a le Storvat.
De quoi ?
Le Storvat.
Le Storvat, c'est quoi ?
Oui, c'est un bain nordique qu'on met dehors et il est à côté du maso. Un énorme tonneau que l'on fait chauffer au feu de bois. 3 heures pour monter jusqu'à 38 degrés, mais alors après, quel plaisir.
Ça doit être fantastique, ça.
Été comme hiver, hein. C'est génial. On regarde le ciel étoilé dans un bain chaud avec la bonne odeur du feu de bois. Ça fait rêver.
Allez, on redonne l'adresse, le maso d'Émile à Samoins, en Haute-Savoie. Et pour vous, Sébastien, les Alpes, qu'est-ce que ça évoque pour vous dans l'assiette ? Il y a de quoi faire ?
Ah, ça, c'est peu de le dire, Philippe.
Alors, le fromage.
Alors, je vais enfoncer plein de portes ouvertes, verser dans les tautologies les plus pures. Mais, les amis, les Alpes, c'est grand. Et c'est pour ça, figurez-vous, que j'ai eu un mal de chien à préparer cette chronique en me disant, mais où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger entre les Alpes de Haute-Provence, le Dauphiné, le Léman ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Annecy et Chamonix. J'arrive pas toujours moi-même, vous savez, quand il est question des Alpes, à sortir de cette caricature un peu tartiflette, les plats pour chasseurs alpins qui vous réchauffent la panse. Alors j'ai évidemment tort, parce que la région regorge de produits fabuleux et de cuisiniers ultra doués. Et tiens, je vais vous donner un nom, les amis, et c'est même un scoop, puisque je vais vous parler d'un restaurant qui n'a pas encore ouvert. Il faudra attendre la rentrée pour voir débarquer ce formidable chef qui s'appelle Daniel Baratier à Annecy-le-Vieux. Il reprend un restaurant qui existait là-bas, qui s'appelle Sur les Bois, et il va faire un carton, comme il a cartonné pendant quelques années à Paris, lorsqu'il tenait le restaurant Les Déserteurs. C'est un natif d'Annecy.
C'est un fou furieux
de produits. Ouais. Notez-le d'ores et déjà dans vos tablettes pour la rentrée. Daniel Baratier, Sur les Bois.
Bon, c'est noté, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on mange à nos fourneaux aux recettes?
Alors, j'ai fini par trancher, Laetitia, entre à mi-chemin, si vous voulez, entre les Alpes françaises et les Alpes italiennes, une recette ultra tradi de chez Tradi et qu'on peut tout à fait avoir envie de cuisiner en été. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous?
Qu'est-ce
bah,
qu'on
la polenta,
fait,
tout bêtement.
Ah, la polenta. Polenta.
Alors, je dis, on peut en avoir envie en été parce que c'est vrai, ça a une allure un peu de brouet, on va dire, plus ou moins épais. Mais moi, je trouve que la polenta, c'est génial parce que c'est sexy et c'est réconfortant. Vous le savez, c'est tout simplement de la farine
de
maïs.
Ça cale, en tout cas, la polenta.
Ça cale bien, ouais. Farine de maïs qui est tantôt jaune, le plus souvent, ouais. Parfois blanche en Italie, parfois rougeâtre également du côté du Pays Basque. Et ça se travaille donc à l'eau ou au lait, et ça va progressivement épaissir. Et en fonction de ce que vous voulez faire, on fait une polenta plus ou moins épaisse, plus ou moins brouée ou plus ou moins fluide. Donc, si vous voulez, vous avez deux options pour un même produit. J'appelle ça le luxe.
Allez, allons-y. Mode d'emploi.
Alors, mode d'emploi, Philippe. Il faut d'abord commencer, je vous le disais, par faire bouillir un liquide. Moi, je fais généralement moitié eau et moitié lait, mais vous pouvez aussi tout à fait imaginer, par exemple, un bouillon de légumes très très léger avec un petit peu de vin blanc. L'idée, c'est que quand votre liquide arrive à ébullition, il faut être super vigilant parce que la polenta se verse en pluie tout doucement et on mélange sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Sinon, ça fait des grumeaux.
Exactement, avec des gros paquets de grumeaux, et là, c'est la galère.
Et donc, d'accord. Voilà, moi, ce que j'aime pas dans la recette, c'est ça, c'est qu'il faut rester à
c'est
côté,
qu'il faut
tourner,
Il faut touiller. Alors, ça, c'est vrai, Laetitia, avec les polentas qui sont pas instantanées, il faut sortir l'huile de coude, c'est comme ça, touiller pendant une bonne demi-heure, des fois même 45 minutes.
Oh non, mais injouable.
Mais arriver de faire ça avec des vrais polentas bien costaudes, une heure à touiller, les amis. Bon, mais c'est indispensable si vous voulez éviter de vous retrouver avec un bloc de béton dans la gamelle, ce qui est assez peu appétissant, on est d'accord. Avec les polentas instantanées que vous aimez bien, vous, Laetitia, c'est beaucoup plus facile. Ça prend 10 minutes, en gros, et on peut quasiment s'y prendre.
Ça me parle plus,
hein. Ouais, je sais que ça vous parle plus. Et du coup, on peut s'y prendre quasiment au dernier moment.
C'est bien.
Alors, on termine la petite touche finale. C'est évidemment l'assaisonnement de la polenta en fonction de ce qu'on veut en faire. Option numéro 1, par exemple, moi, j'aime bien la garder bien souple, bien tendre, comme ça, pour accompagner, mettons, je sais pas, en ce moment, une pintade rôtie, pourquoi pas. Eh ben, vous la détendez à la fin avec un petit peu de crème fleurette, ça va lui apporter un côté onctueux, un petit peu de parmesan râpé là-dedans évidemment, un brin de thym frais, un éclat minusculissime d'ail haché, et là je vous dis, c'est juste grand. Alors, deuxième option, Philippe, vous laissez prendre votre polenta à la fin de sa cuisson sur une plaque à pâtisserie. Vous allez voir, elle va s'étaler comme ça.
Vous la
lissez
ça,
bien.
Oui.
Et voilà, vous la tassez comme ça sur, allez, quoi, 3 cm d'épaisseur à peu près. Et puis, elle va se raffermir. Et là, vous allez pouvoir la couper en grosses frites, en gros bâtonnets que vous faites revenir 5-6 minutes comme ça à la poêle avec un peu d'huile d'olive. L'idée, c'est que ce soit un tout petit peu grillé à l'extérieur et très tendre, très très moelleux à l'intérieur. Ça, par exemple, léger, hein, on est en été avec une petite salade verte un petit peu amère, c'est très très très, mais alors très 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 bien.
Bonne idée, on va se régaler.
Eh bien, merci à tous les deux, ça donne envie d'aller passer un peu de temps dans les Alpes, et on continue ces balades la semaine prochaine. Dans RTL Matin Week-end, nous irons au Pays Basque.
Eh bien, le rendez-vous est pris, Philippe.
Oui, j'ai faim, c'est à cause de Sébastien.
Ah, c'est clair.
C'est à cause de Sébastien Demorand.